Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo, deux coups de cœur ciné aujourd'hui. Le premier qui sera consacré à Bis Repetita. Nous allons recevoir dans une poignée de secondes Noémie Lovski, Louise Bourgoin et Xavier Lacaille. En fin d'émission, on parlera également de la sortie du film Karaoké. À cette occasion, le réalisateur Stéphane Benlassen sera avec nous, accompagné de Claudia Tagbo et David Mora. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine, consacrés à la meilleure boulangerie de France avec Bruno Cormeret qui va venir nous rejoindre. On va parler également de la série Le Crime lui va si bien avec Mehdi Sadoun. Et on parlera également enfin de Mercato, à nouvelle série de TF1 avec pour cette deuxième semaine Simon Astier qui sera aux commandes de la réalisation de ces épisodes, qui sera notre invité.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine, et ça s'appelle Bis Repetita. C'est le premier film d'Émilie Noblet que vous allez pouvoir découvrir dans les salles mercredi. Et puis à cette occasion, on a toute une partie du casting qui est avec nous aujourd'hui. Louise Bourgoin, bonjour Louise.
Bonjour.
Noémie Lovski qui est avec nous. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Et puis on a Xavier Lacaille évidemment aussi qui est avec nous, le héros de Parlement qu'on a plaisir à retrouver aussi.
Yeah, good morning. Yeah. Uh-huh. Yes. Good morning. Yeah, yeah, yeah.
Mm-hmm. Yes. Ouais, tu quittes pas ton personnage, non, Xavier.
Jamais. Non, jamais, jamais. C'est, il est toujours à moi.
Bon, Bis Repetita va nous emmener dans une aventure italienne. Et franchement, on a passé un super moment en voyant ce film dans des décors absolument somptueux qu'on rêve peut-être de visiter et qu'on n'a jamais trop vu dans les films comme ceux de Pompéi. Et on va y découvrir Delphine, une prof de latin, qui a lâché les armes, je crois qu'on peut dire comme ça, et qui a décidé de nouer un pacte avec ses 5 élèves restants, d'essayer de leur foutre la paix en quelque sorte en leur mettant des 19. Mais le problème, c'est que ça va se retourner contre elle. Puisque étant la meilleure classe de latin limite de France, elle va devoir en tout cas partir à Naples pour défendre les couleurs de la France au plus grand concours de latin. Et c'est là que ça va se compliquer, puisque la proviseure incarnée par Noémie va lui flanquer son neveu qui lui est un passionné de latin.
Oui, c'est moi, le passionné de latin.
On va parler un peu de Delphine déjà pour commencer. Louise, comment tu la définirais toi ?
Ah, Delphine, c'est quelqu'un qui a démissionné parce que elle en avait marre, en fait, du mauvais niveau de ses élèves. Elle a décidé d'arrêter de se battre. Et en revanche, comme ils sont que 5 dans la classe, ils sont assez complices. Donc, finalement, elle est un peu comme une adolescente, quoi, une élève parmi les élèves. Ils peuvent lui donner des conseils dans le domaine matrimonial. Ils peuvent tricher ensemble pour gagner un examen. Enfin, voilà, c'est une belle complicité, mais elle a arrêté de les former au latin et c'est par Rodolphe, donc le neveu de la proviseure, qu'elle va renouer en fait avec cette sincérité et cet élan de vouloir vraiment enseigner finalement, parce que il va lui faire prendre conscience que c'est archi cruel d'avoir démissionné et d'abandonner les élèves comme ça, qu'il faut croire en eux, que même s'ils sont mauvais, on peut toujours les intéresser en adaptant par exemple le latin à la variété française. Et il va notamment être l'auteur de la célèbre traduction de
Pour que tu m'aimes encore, version latin rock.
Version latin rock. Et ça, c'est quelqu'un qui est plein de joie et de ferveur, en fait, qui n'est pas encore cassé par le métier, qui a plein de bonnes idées. Et finalement, ça va former un très joli couple, très complémentaire.
Oui, il va avoir la tâche ardue, puisqu'il va devoir non seulement remotiver les élèves, mais la prof aussi. Donc voilà. Et puis, cette proviseure, bah, qui elle est très amie quand même avec sa professeure, hein, on peut le dire, et qui est en dessous de tout soupçon, en fait. Hein, cette professeure, elle n'imagine pas ce qui se passe. Donc elle, c'est de bon aloi qu'elle va lui flanquer son neveu.
Oui, parce qu'elle a, elle a des résultats en latin phénoménaux, quoi. Elle a même les meilleurs résultats de France. Et comme l'option latin est en danger, parce que plus personne ne veut faire du latin, il faut que Louise parte avec ses élèves défendre le latin pour pouvoir garder l'option latin et son poste, et qu'elle gagne le concours d'Eludi Latini. C'est très important. Mais ses élèves sont des cancres, puisque et il va falloir qu'elles se démènent et qu'elles se débrouillent pour gagner ce concours.
Et on va beaucoup rire, ça va donner lieu à de sacrées scènes cocasses avec les élèves.
Et puis aussi, je voudrais bien la marier avec mon neveu.
Ouais, ça, on le sent.
Je veux faire le bien de mon neveu.
Et voilà, vous verrez si ça réussit ou pas. En tout cas, il faudra attendre la fin du film pour le savoir. Mon cher Xavier, qu'est-ce qui t'a plu dans le rôle de Rodolphe, du coup ?
Bah non, mais c'est super drôle quand même. L'idée, le pitch de jouer un mec qui a écrit une thèse en latin de 850 pages, ça me parle, quoi. Non pas que j'aime le latin, mais juste parce que ce mec est un sacré furieux, et j'adore les furieux. Non, le scénario était extrêmement, extrêmement drôle, extrêmement intelligent. Moi, je suis sensible aussi au domaine de l'éducation et l'enseignement, donc c'était un truc qui me parlait. Et dans le film, j'aime bien ce que tu dis, Noémie, parce que ce qui est drôle, c'est que c'est même pas quelque chose qui est vraiment à la lecture, le fait qu'elle aimerait caser ce mec avec la prof. Non, mais oui, mais sauf qu'en fait, c'est très implicite. Et en fait, c'est quand tu le dis là que je m'en rends vraiment compte, moi. Mais c'est quand on a joué cette scène que tu prends conscience que elle a quand même une idée plus grande en tête que juste de faire un petit voyage scolaire, quoi. C'est là que tu vois quand même la folie de ces personnages et de cette famille. Je fais, mais qu'est-ce qui sait que c'est dégénéré? C'est ça que j'ai kiffé, moi. C'est que c'est quand même des personnages qui sont vraiment fous, qui croient ou pas très fort dans quelque chose et qui ont quelque chose à comprendre et à s'apporter. Et en l'occurrence, cette espèce de duo d'éducation slash un peu sentimentalo-éducatif entre Delphine et Rodolphe, que je trouve assez chouette parce que c'est la dimension comique et romantique, c'est ce que j'aime beaucoup. Enfin, j'adore les comédies romantiques. Et en France, c'est vrai que c'est plus difficile, j'ai l'impression, de marier ça. Et il y a un truc un peu américain dans ce film, je trouve.
À la lecture du scénario, et puis en ressentant les quelques jours où j'ai tourné Rodolphe et Delphine, c'est le couple le plus improbable du siècle, quoi. Enfin, du siècle. C'est vraiment un couple improbable. Lui, c'est un geek de chez geek. Elle, pas du tout. C'est une espèce d'ado adulte, mais resté ado. Qui a pas peur du bordel, qui a pas, enfin bon voilà. Et lui, il est complètement maniaque de sa thèse de latin. L'improbabilité d'une rencontre et d'une entente.
C'est vrai que c'est ça qui est cool aussi. Quand tu vois le film, tu te dis mais jamais de la vie ces deux-là vont vivre un truc. Jamais
même,
de la vie.
Même quand on vous voit dans la vie, on se dit ah bon, ils vont faire couple. C'est super beau. Moi, quand je vous ai vus tous les deux ensemble, j'étais en joie parce que oui, c'est totalement improbable.
Et deux géniaux comédiens en plus qui vont nous embarquer dans cette épopée italienne assez folle. Ce que j'ai trouvé très drôle aussi dans ce personnage de Delphine Louise, c'est vraiment ce craquage au début. Elle fait croire quand même à son amie qu'elle va donner des cours, etc. En fait, elle passe une soirée où elle est déguisée avec des ballons partout, dans une tenue rose improbable. Et c'est un plein craquage complet, cette prof, elle destroy un peu hein, par moment.
Ouais, j'ai vraiment pas peur de mentir pour le coup, parce que je fais carrément croire à ma proviseure que je vais aider les enfants de réfugiés.
Les enfants de migrants,
et finalement, en fait, c'est pas du tout ça que je vais faire. Je vais me torcher la tronche avec pas mal de mecs avec qui j'ai déjà été les années précédentes. C'est une espèce de grande débauche. C'est une prof un peu punk. Face à quelqu'un qui est en premier de la classe, Rodolphe, et qui est une sorte de mec assez parfait, parce qu'en plus, quand même, tu crées une vraie connexion avec les élèves. T'arrives à les intéresser, t'es pas un espèce de prof sous naphtaline, quoi.
Non, mais il se fait quand même un peu victimiser sa guitare, quoi. On dessine quand même une petits dessins sur sa guitare. Un prof qui manque d'autorité et de réel.
Un dessin que vous allez voir beaucoup dans les musées, d'ailleurs, aussi, qui va visiter Rodolphe.
C'est vrai. Un dessin prémonitoire, c'est vrai, parce qu'il faut savoir qu'à Pompéi, il y avait beaucoup de zizi gravés dans le sol, et ça désignait des bars. Voilà.
On va en parler dans un instant de ce tournage, justement, aussi évidemment en Italie. Noémie a eu le droit d'y aller un petit peu en Italie quand même, pour aussi une scène à la fin qu'on dévoilera pas évidemment. Mais en tout cas, ça a l'air d'avoir été un sacré beau moment et des décors magnifiques dans lesquels vous avez tourné en tout cas. On va en parler dans un instant. Bis Repetita, ça sort mercredi dans les salles. On va saluer Émilie Noblet, dont c'est le premier téléfilm très réussi en tout cas. Émilie est en plein tournage en ce moment de la version de Zorro avec Jean Dujardin pour France Télévisions. Donc voilà, on l'embrasse en tout cas et on lui souhaite bon courage pour ce tournage et cette série qu'on découvrira bientôt sur France Télévisions. Bande annonce, on revient juste après avec vous. Vous restez là ?
Oui, oui, on reste.
On reste.
Oui, oui, on reste, bien sûr. Oui, oui, à tout de suite.
Eh ben, à tout de suite, bis repetita. La bande annonce, à tout de suite.
On a un deal, je vous rappelle. Les gars, on a déjà fait cours de latin ?
Non, jamais.
C'était le deal de pas faire cours.
Si on la ferme, on a 19 de moyenne.
Mais si vous préférez, on peut toujours faire des interros de grammaire. Hein.
Je suis très, très inquiète pour le maintien de l'option latin l'année prochaine. C'est chaud, patate. Si on fait rien, j'ai peur que ce soit dead.
Alors, je vous présente Monsieur Cagna.
Il faut que vos élèves soient brillants à ce concours.
Monsieur Cagna va nous accompagner pendant toute la durée du concours.
C'est qui ce bouffon, là ?
Vous pouvez m'appeler Rodolphe.
Là. Allez, bis repetita, c'est donc mercredi dans les salles, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Louise Bourgoin, Noé Milowski et Xavier Lacaille sont avec nous pour en parler. Tournage à Naples, à Pompéi, dans des endroits qu'on n'a quasiment jamais vus au cinéma au niveau décor. Alors peut-être plus dans des documentaires ou des choses comme ça. Mais franchement, vous avez eu une chance de tourner dans des décors pareils, Louise et Xavier.
Une chance folle, je me souviendrai toujours du soleil couchant sur le décor de Pompéi alors qu'il l'avait privatisé, on l'avait que pour nous ce jour-là. C'était incroyable, c'était hyper émouvant avec un guide qui nous avait tout montré. Non mais ce qui est génial, c'est qu'en fait on n'a absolument pas l'habitude de voir ce genre de décor dans des comédies, que ce soit voilà les rues de Naples avec la vraie figuration, enfin des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient filmés, des, je sais pas comment on dit, une figuration volée, je sais pas. Ça m'a rappelé les films de Fellini, enfin tout de suite on est projeté dans un truc très... qui rappelle l'âge d'or du cinéma et qui est très émouvant, je trouve.
Rodolphe n'était pas donc le seul guide à Pompéi.
Disons que c'était le guide de la fiction, mais on avait des guides de la réalité, d'ailleurs, qui étaient hyper sympas parce qu'ils nous ont montré des trucs que les gens pouvaient pas forcément voir. Et comme tu dis, fou quoi, coucher de soleil, hop là, des gags un peu partout. Non, non, mais c'est vrai que c'est hyper drôle. C'est intéressant de voir quel était le rapport au corps à l'époque et quel rapport on entretient aujourd'hui au corps.
Et ces cinq jeunes comédiens, ils sont formidables. Ils ont tous des caractères différents. Alors il y a l'amoureux transi de sa professeure. Hein, il y a l'ado en quête d'identité aussi. Voilà, ils ont tous des figures bien, bien particulières. Ils sont hyper attachants.
Très attachants, très professionnels, avec un autre rapport au cinéma. Je me souviens, quand j'ai commencé dans le cinéma, j'ai sacralisé la caméra. Je n'osais pas la regarder. Tout est très hiérarchisé, donc j'étais très inhibée. Et eux, au contraire, ils ont un rapport à l'image qui est complètement différent avec Instagram, les réseaux. Ils faisaient des stories pendant qu'il y a action. Ils étaient déjà en train d'allumer leur téléphone pour faire des stories en même temps. Et c'était moi que ça inhibait, parce que je me disais... Mais qu'est-ce qu'il va y avoir sur les réseaux là? Je peux pas contrôler. Qu'est-ce qu'ils font? Et je voulais pas passer pour la vieille rombière qui disait vous coupez les portables. Donc j'ai rien dit. Mais c'est marrant. Ils étaient très très à l'aise en fait avec ça, avec la caméra, les impros. Ils étaient vachement bien. Et il y en avait qui avaient déjà eu des expériences au cinéma, comme Issa pour Les Misérables. Mais par exemple celui qui joue Mon Amoureux Transi, il a seulement 15 ans. Il s'appelle Elias et il est génial. Il est dément. Et il était très naturel et aussi très bon en impro.
Xavier ?
Ouais, incroyable. Elias, qui joue Alban, à un moment où on est à Pompéi, et il était très détendu, et parfois il oubliait un peu la caméra, et je vois qu'il est un peu dans ses pensées. Vraiment, c'est le personnage en plus, donc c'est parfait. Je dis, Elias, tu sais comment on dit viaduc en latin ? Il fait, ouais, ouais. T'as déjà vu un viaduc ? Ouais, ouais. Où ça ? Dans la rivière. Et en fait, le mec est capable d'improviser pendant une heure. Il a 15 piges. Et je me suis dit, mais j'ai le meilleur client possible devant moi, quoi. Un enfant, il a 15 ans, tu vois, mais un peu Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses, quoi. Et formidable parce que là aussi, Émilie Noblet, c'est quand même 5 gosses sur un plateau. C'est une galère sans nom. Tu te dis, je vais quand même me mettre dans la pire configuration. Et en fait, c'est génial. Elle a réussi à créer une cour de récréation, donc c'était parfait. Et ça s'est vraiment royalement bien passé parce qu'elle a su s'adapter à chaque fois aux personnalités de ses ados. Et elle a su vraiment les mettre à l'aise. Et comme tu dis, c'est une génération qui est très différente. Donc, ils n'ont pas le même rapport à la caméra que nous. C'est vrai, t'as raison. Ils sont désinhibés, complets, quoi.
Quelques moments d'impro pour vous trois. Il y a eu quelques moments où, Émilie, vous a laissé un peu de liberté. Je pense notamment à Noémie, qui a quand même une casquette de réalisatrice aussi très forte.
Oui, alors moi, j'y pense pas à cette casquette, comme vous dites, de réalisatrice quand je fais l'actrice. Et oui, on a improvisé la scène de repas, la scène où je les fais se rencontrer, tous les deux, et où je veux monter une baraque à mon neveu.
C'est un peu ça, oui. Louise ?
C'était très enrichissant de l'avoir travaillé. Noémie, je suis fan depuis toujours. J'adore ses films en tant que réalisatrice et j'adore à chaque fois ce qu'elle apporte dans tous les personnages qu'elle incarne. Là, je l'ai vu récemment dans le film de Baya Kasmi. Youssef Salem a du succès. L'éditrice est formidable et je suis sûre, enfin, je sais qu'à l'écriture, c'était pas comme ça et qu'elle a, elle a rajouté plein de choses. Et c'est pareil pour le film d'Émilie Noblet. Enfin, là, je sais que la première scène qu'on avait ensemble, c'était un risotto raté, mais qui était juste un point de départ pour la scène. Et puis, elle en a fait la scène et c'est devenu un énorme sujet parce qu'elle arrive à se mettre dans des états, mais tellement sincères, où vraiment elle est au bord de la dépression, quoi, de la dépression parce qu'elle a raté son risotto et ça remet toute sa vie en question. On sent qu'elle pourrait vraiment se suicider, en fait. Elle est vraiment borderline. Et c'est à hurler de rire et elle est très sincère. C'est ça qui est génial dans les comédies, c'est quand l'acteur est hyper sincère, quoi. C'est là qu'on peut rire vraiment. Ne serait-ce que pour un petit coucou quand elle vient en Italie pour me saluer en tant que proviseur lors du concours, elle fait elle a un peu peur de moi en me faisant un bien coucou. Elle arrive à transformer des choses qui sont a priori banales qu'on aura envie de balayer d'une main en entendant d'avoir mieux à jouer. Et elle transforme le rien en truc vraiment génial, quoi. C'était une super bonne école.
Bon, en tout cas, il y a Anti-Squat aussi qui vient de sortir en DVD et VOD, le film de Nicolas Silol pour lequel on s'était vu en septembre. Magnifique film. Voilà, allez voir si vous l'avez raté au cinéma. C'est sa deuxième vie qui démarre. En tout cas, ne pas manquer. Xavier, vous pouvez rattraper par Le Mans, hein, sur France.tv. Les trois saisons, si vous avez jamais vu ce personnage ou en couleur que tu joues, n'hésitez pas aussi. Et puis les projets, Noémie, pour 2024?
Voilà, oui, il y en a. Je vais retravailler, je suis très très contente, avec un réalisateur italien qui s'appelle Pietro Marcello, wow. qui est merveilleux. Génial. On a fait son dernier film ensemble, L'Envol, et puis j'ai joué avec Yvan Attal au Théâtre Antoine, une pièce de Sébastien Thierry qu'on va reprendre en tournée.
Ah, trop bien.
Et puis on m'a proposé aussi deux films. On attend les dates. Les dates arrivent de plus en plus tard, non?
Ouais.
Parce que les financements arrivent de plus en plus tard.
Ouais. Ça va de plus en plus vite. En tout cas, bis repetita. C'est mercredi dans les salles. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Merci infiniment. Tous les trois, merci Louise, merci Noémie, merci Xavier d'avoir été là.
Et grazie.
Grazie mille.
Grazie a Sagutibi.
Voilà, en latin. Bravo. Merci. On se quitte avec un petit extrait justement de bis repetita. Merci à tous les trois.
Si votre classe gagne les Ludi Latini.
Salve sitis omnes.
On est sauvés.
On se croirait dans Harry Potter à l'école des sorciers, c'est incroyable.
Alea iacta est.
C'est une secte ou quoi?
Aquis.
Datif L'Oréal ou ablatif L'Oréal?
Là, on a juste rien compris. Hein.
Et on a compris qu'on était des grosses merdes. Tout ça parce que vous avez la flemme de nous faire cours.
Mais tu dis n'importe quoi.
C'est-à-dire, vous avez jamais fait quoi?
On va tricher.
C'est vous la prof et c'est vous qui nous dites de tricher, mais c'est immoral.
Immoral. Ça va pas, non?
Allez, bougez pas, dans un instant, Bruno Cormeret, Simon Astier et également Mehdi Sadoun nous rejoignent dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube
et notre page Facebook, Chut, on écoute la télé.
Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées. Jusqu'à l'ombre.
Regarde-toi à l'autre pôle. Fermez les yeux sur ce qui nous ronge. On a changé à la longue.
On a parcouru le chemin. On a tenu la distance. Et je te hais de tout mon corps. Mais je t'adore. On a parcouru le chemin. On a souffert en silence. Mais je te hais de tout mon corps. Mais je t'adore.
Je vis dans une maison de verre, à moitié remplie de ton eau. Arrêtez le niveau.
Je suis le fantôme qui s'égare. Je suis l'étranger à ton cœur. C'est mon regard comme on est seul.
On a parcouru le chemin. On a tenu la distance. Et je te hais de tout mon corps. Mais je t'adore. On a souffert en silence. Mais je te hais de tout mon cœur. Mais je t'adore. et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. On n'a pas couru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. On n'a pas couru le chemin, on a souffert en silence, mais je te hais de tout mon corps, mais je
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à la meilleure boulangerie de France et on part sur les routes de France évidemment avec Bruno Cormeret qui nous emmène un véritable voyage gustatif depuis plusieurs semaines maintenant à la rencontre des meilleures boulangeries de France. Bruno, merci d'être avec nous.
C'est un grand plaisir. Alors ça fait au moins plusieurs semaines voire plusieurs années hein, ce petit parcours de dégustation sur toute la France. Effectivement, on a la chance d'aller à la découverte d'artisans boulangers pâtissiers et puis pour certains un peu traiteurs. Et voilà, c'est un vrai régal. En plus, Noémie vient d'intégrer l'équipe, donc on se marre bien. Je pense que ça transpire au travers de l'émission et on passe de bons moments.
Ça fait 11 ans que l'émission existe, c'est un véritable carton, un phénomène. Et d'ailleurs, très souvent, les boulangers en région arrivent à mettre des véritables petites armées autour d'eux pour justement les soutenir aussi à travers cette émission. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir, alors déjà pour les yeux, nous, et culinaires, de vous voir œuvrer pour le bien manger et pour le bon pain. C'est ça qui est bien aussi.
Ouais, et puis le pain, ça fait partie de notre patrimoine, donc faut pas l'oublier. Et puis c'est très symbolique. Alors effectivement, on a aujourd'hui des boulangers qui se donnent vraiment les moyens de participer à cette émission, contrairement à peut-être dans le passé chez certains où c'était un petit peu plus pris à la légère. Aujourd'hui, les boulangers savent qu'il y a de très belles retombées, hein, ça leur fait une très belle pub, et donc aujourd'hui, ils se donnent vraiment les moyens d'aller au fond de la compétition. Alors, la compétition, c'est presque un prétexte, en fait. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi, évidemment, le produit, puis surtout l'humain qui a derrière tout ça, parce que le produit, on le connaît un peu, mais l'humain, c'est une vraie découverte.
Alors, vous avez été surpris, j'imagine, Bruno, souvent, parce que vous avez goûté, parce que vous avez découvert chez certains. On a vu du pain aux algues, on a vu plein de choses différentes. Des fois, c'est des véritables voyages. Hein.
Alors, c'est vrai que le pain se cuisine de plus en plus. Hein. Là, vous parlez du pain aux algues. Moi, quand j'étais en apprentissage, les seuls pains un peu spéciaux dans le passé, c'était un peu de farine de seigle, du pain avec des raisins, du pain avec des noix, un peu de pain au son, et puis on avait fait le tour, quoi. Aujourd'hui, le pain est très cuisiné, c'est un très beau support. Moi, j'ai souvenir de plusieurs pains, notamment un qui était avec de l'eau de vie dedans, et puis on avait un boulanger qui nous avait fait un pain façon un peu tarte tatin, avec plein de caramel dans le fond du moule, avec plein de graines, et c'était un vrai bonheur de déguster ce produit-là, quoi. Mais effectivement, le pain aujourd'hui est très cuisiné.
La boulangerie aujourd'hui, on le voit, on le sent, il y a vraiment un engouement autour des grosses boulangeries qu'on voit souvent au rond-point, des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment sur eux qu'il faut s'attarder? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour repérer le meilleur pain à nos auditeurs là?
Bah, le meilleur pain déjà, c'est celui qu'on apprécie soi-même. Vous savez, c'est comme le vin. Moi, j'ai posé une fois la question lors d'une dégustation de vin. J'ai dit à la dame, je veux goûter un de vos meilleurs vins. Mais elle me dit, ça sera peut-être pas le même critère que moi. En tout cas, ce qui est important, on va parler baguette là pour le coup. Il faut que la baguette soit physiquement un peu attirante, un peu rustique. Il faut qu'elle soit bien cuite parce que pour moi, ça fait partie des critères qualité. Alors après, effectivement, il y a aujourd'hui des grosses enseignes ou des artisans boulangers qui se placent sur des ronds-points parce qu'aujourd'hui, la proximité de ce métier à l'époque pas toujours dans le centre-ville, elle est aussi un peu en périphérie. Les centres-villes, malheureusement, pour certains, se ferment au stationnement. Donc, il nous faut du stationnement pour répondre à notre clientèle. Mais on a aussi de très belles pépites à la campagne. Moi, j'ai souvenir, on était allé dans la montagne, là, chez un boulanger qui travaillait tout seul, qui nous avait présenté une tarte qui était fabuleuse. C'est pas la taille de l'entreprise qui fait la qualité du produit. Hein. La qualité du produit, c'est vraiment la main de l'homme qui le réalise. Et l'homme, il peut le faire tout seul ou peut le faire à plusieurs. Encore une fois, ce qui est important, c'est le produit et pas la taille de l'entreprise.
puis j'ai vu des toutes petites boulangeries des fois finir deuxième ou premier même du concours. Et tous les ans, c'est une véritable compétition que se livrent les boulangers. Certains ont même été plus loin en terminant premier ou deuxième de la compétition, étaient défendre les couleurs de la France aussi à des concours de boulangerie internationaux. Ça peut les mener assez loin, cette histoire.
Oui, c'est vrai qu'une année, on avait retenu les boulangers qui étaient allés en finale hein, sur cette émission. On les avait emmenés sur un concours qui s'appelle le Mondial du Pain, que moi j'organisais avec mes collègues qui sont ambassadeurs du pain. Donc c'est pour le coup, c'est Étienne Rousseau qui avait été coaché. Et c'est comme ça qu'on est devenus très amis. Hein. Il est boulanger du côté de...
Pour ce Franche-Chapuche, juste à côté de l'île d'Oléron.
Exactement, il est juste à côté de l'île d'Oléron. Et donc il est parti à l'étranger, il a représenté, il a défendu les couleurs de la France. Et alors il avait jamais fait de concours, donc c'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, encore une fois, là, ce qu'il faut retenir dans ce rapprochement, c'est l'humain, quoi. Hein, c'est vraiment ce côté qui moi m'intéresse aussi beaucoup, quoi.
Si je me souviens bien, d'ailleurs, c'était la fraise hein, qui vous avait assez fasciné chez lui avec son grillé aux fraises.
Alors exactement, c'est un genre de tarte aux fraises. Et là, l'originalité, c'est qu'il avait cuit cette tarte aux fraises. Il avait repris un petit peu l'idée du grillé aux pommes, mais avec des fraises. Et puis on était vraiment sur le fruit. On avait quelque chose qui était très peu sucré. Et à l'époque, avec Norbert, ça nous avait un peu scotché. Là. D'ailleurs, lorsqu'on était rentré dans le village, on avait vu ce petit village. Là, on s'était dit, mais trouver une boulangerie comme ça dans un village pareil, c'est assez improbable.
Bruno, il y a des moments de fou rire, j'imagine, sur les tournages. On a l'impression quand même que d'une, vous ennuyez pas, mais il y a quand même de sacrés moments de fou rire, hein, avec la petite nouvelle en plus là de cette année.
Bah avec Noémie, tout comme avec Norbert dans le passé, ou comme avec Gontran, moi je dis souvent que le pain c'est ça, c'est les copains, c'est le partage, c'est la convivialité. On se prend pas forcément très au sérieux, même si faire du pain c'est quelque chose de sérieux. Mais ouais, c'est ça, on passe des bons moments. Puis heureusement, parce que là, si on fait référence à cette année, on est presque ensemble presque 30 semaines sur les routes de France, donc c'est important de bien s'entendre. Puis Noémie amène beaucoup de fraîcheur avec ses petites idées. Alors elle est très florale sur la déco et non, ça se passe très bien. Passe effectivement, on a des bons fous rires.
Vous avez été surpris du retour du public, de ce que les gens viennent vous dire, de ce que vous leur apportez au quotidien avec cette émission?
Alors évidemment, de plus en plus, parce qu'aujourd'hui on tourne la saison 11, donc ça fait 11 ans qu'on est à l'image. Sur les premières années, pas trop, parce qu'en plus c'était que 6 semaines de tournage, c'était beaucoup plus court. Alors les gens, ce qui nous ramène, c'est que, et c'est ce qui me fait plaisir, c'est que ils ont une autre vision du pain aujourd'hui. Ils ont vraiment le sentiment que ils sont passés un peu à côté de quelque chose. Le pain pour eux, c'était devenu quelque chose d'un peu de banal. Et aujourd'hui, je pense que pour la plupart, ils font très attention au pain qu'ils achètent. D'ailleurs, sur le tournage, dans nos techniciens, on en a deux qui ont passé leur CAP de boulanger, un cadreur et un ancien producteur de l'émission. Ils sont tombés un peu amoureux de la fermentation du pain. Et donc ils ont passé leur CAP, donc ils sont pas installés encore, ils ont pas pignon sur rue. Mais voilà, c'est des gens qui se passionnent pour le pain, et j'espère qu'avec l'émission, on a redoré un petit peu les lettres de noblesse de ce pain qui fait partie intégrante du patrimoine français, quoi.
Des fois, on est dur dans ses propos, dans ses critiques, c'est nécessaire?
Moi, je sais pas, j'espère pas être très dur. En tout cas, moi, j'essaie toujours d'être le plus juste possible. Alors, effectivement, des fois, les gens, j'ai des retours sur les réseaux. Oh, Bruno, t'as mis 7, là, t'es un petit peu dur. On tourne pendant 16 heures, hein, pour faire une émission de 52 minutes. Donc, forcément, il y a des choses qu'on montre pas, il y a des choses que les gens ne voient pas. En tout cas, nous, on voit tout. Et donc, moi, j'essaie d'être au plus juste. Et encore une fois, c'est le produit qui parle. C'est pas les copains. Moi, j'ai des copains. Je connais énormément de boulangers, hein. J'ai plein de copains qui sont passés dans l'émission. C'est pas parce qu'ils sont copains. Moi, c'est encore une fois, c'est le produit qui parle et pas forcément l'amitié, quoi.
Exactement. Vous qui êtes meilleur ouvrier de France, Bruno, vous êtes aussi ambassadeur de Bagatelle, qui est la première baguette qui a eu le label rouge aussi. Oui. C'est une fierté, ça?
Bah, c'est une fierté pour nous boulangers. Quand on se respecte un peu, effectivement, le fait d'avoir un produit de label rouge, en plus c'est la seule, parce que c'est un travail énorme. Moi, je suis très fier de représenter aujourd'hui cette marque. Et puis surtout, c'est moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est la qualité du produit. On est sur une baguette qui est très peu pétrie, il y a beaucoup de préfermentation, il y a du levain. Il nous faut 18 heures hein, pour faire une baguette de ce style. Alors il y a plein de boulangers qui panifient déjà et qui font un peu le même type de baguette que Bagatelle, sauf que nous, Bagatelle, elle est certifiée, elle est label rouge, et ça, c'est unique au monde.
Merci Bruno d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Je sais que le programme est chargé en ce moment, puisqu'on vous retrouve du lundi au vendredi à 18h30 sur les routes de France à la recherche de la meilleure boulangerie. Et ça, évidemment, on suit vos aventures avec attention. On a hâte de découvrir le vainqueur d'ici quelques semaines de ce road trip.
Il va falloir être patient. Et tout comme on est gourmand, il faut être patient.
Exactement. Toutes les bonnes choses se font attendre. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. Et à bientôt.
Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.
Bienvenue dans le Sud. Ses plages et ses palmiers.
Regardez-moi ça.
Si le chef étoilé Michel Saran est déjà au boulot.
Sincèrement, j'aime beaucoup.
D'autres se croient en vacances.
Mais on vient que pour goûter, nous. Hein. Il n'y a pas pour bosser, nous. Hein.
la meilleure boulangerie de France, du lundi au vendredi à 18h30 sur M6.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine s'intéresse à Mercato. Vous avez découvert votre série jeudi dernier. Vous avez déjà d'ailleurs la totalité de la série sur TF1+. Et puis, les épisodes que vous allez découvrir jeudi sur TF1 ont été réalisés de main de maître par Simon Astier qui est avec nous. Bonjour Simon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Prendre la réalisation d'une série en route quand il y a eu les deux premiers, comment on fait ?
Je pense qu'il faut arriver avec ce qu'on est, avec aussi beaucoup d'humilité en regardant ce qui a été fait. Moi, j'ai été appelé par Anthony et Pierre, que je connais depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on veut travailler ensemble et puis on n'a jamais réussi à le faire. Et là, ça s'est fait d'un coup. On s'est dit bon ben, allez, on y va, on fonce quoi. Donc j'ai vu, j'ai étudié, j'ai digéré. Ils m'ont dit viens avec ta sensibilité, ton regard, ta vision aussi. Donc j'ai essayé d'interpréter les choses à ma manière. Ça faisait des années que je voulais bosser avec Arnaud Ducret. Manon, je la connaissais moins, mais j'avais cette espèce de force qu'elle a déjà bien imprégnée en moi. Pef, c'était mon idole de jeunesse et je lui ai dit, j'ai jamais été aussi ému, je crois, de diriger un acteur. Donc en fait, il y avait plein d'ingrédients comme ça déjà connus et puis après, il y avait des découvertes comme Foued, comme Iliès, comme ce décor, cet endroit, cette ville. En fait, j'y suis arrivé en me disant, j'ai le droit d'être qui je suis dans un écrin qui n'est pas le mien. C'est comme si, en tant que fan de voiture, on vous invite à conduire une belle voiture sur un beau circuit. En fait, on prend du plaisir à ne pas tout porter, justement, à être finalement acteur aussi de ça. On m'a demandé aussi parfois d'y mettre un peu ma patte dans les dialogues, dans le ton. Tout le monde m'a accueilli avec une espèce de bienveillance absolue, donc le mélange s'est fait. Et je travaillais avec des acteurs qui sont des machines de guerre à tout point de vue. En comédie, c'est absolument imbattable la précision qu'ils ont.
Le pêche tous les deux, c'est hallucinant. Arnaud, on le savait, mais Manon aussi, avec Section de Recherche, mais ils envoient du lourd.
Mais je pense que Manon, je pense que là, on voit ce qu'elle sait faire dans sa globalité. Manon, c'est une actrice complète et totale, et c'est une actrice qui incarne, et qui est drôle, et qui est puissante, et qui est sensible. Arnaud, c'est un surdoué de la comédie, quelqu'un qui pour moi a l'étoffe de ces héros qu'on avait avant, qu'on a plus. C'est un héritier, un enfant des grands héros à la Belmondo, qui c'est le film d'action et à la fois l'humain très riche, très chaleureux, très. Enfin, les deux c'était inspirant et en fait je crois que c'est aussi ce qui m'a convaincu aussi en plus de vouloir bosser avec Itinéraire avec qui on se cherche depuis longtemps. C'est de me dire, j'ai des gens avec mon idole d'enfance qui est Pef, de me dire, mais j'ai des acteurs qui ne vont pas se mini-impliquer. Ils se sont impliqués complètement et pleinement dans ce projet. Et je pense que c'est une des grandes forces de Mercato.
C'est ça qui est génial, ils ont été te chercher. C'est pas un hasard, Simon, parce que la réalisation, toutes les réalisations que t'as fait jusque-là, ça a été salué par la critique, c'est reconnu pour sa qualité. La comédie d'action, plus avec HeroCorp, tu nous as montré vraiment ce que tu savais faire. Donc, c'est vraiment pas un hasard si t'es là. Ça, c'est clair.
Et surtout, je trouve ça osé aussi de se dire, on n'a pas de langue de bois. Je trouve ça vraiment cool de la part de TF1 aujourd'hui d'oser. Tenter ce genre de projet avec des gens qui sont pas forcément dans leur réserve. Ils vont chercher d'autres talents, ils vont chercher d'autres tons, un autre mélange des genres, et je trouve ça hyper intéressant à l'heure où le nombre de séries est presque vertigineux. On n'ose même plus commencer une série tellement qu'on se dit qu'il y en a tellement à suivre aujourd'hui. Je pense que la force de TF1 aujourd'hui est d'avoir l'humilité de se dire eh ben, on va écouter ce qui se passe, on va regarder comment est-ce qu'on peut suivre l'époque, comment est-ce qu'on peut créer d'autres choses, et je trouve ça assez chouette parce que vraiment, pour avoir travaillé avec plein de diffuseurs, vraiment quasiment tous, je crois aujourd'hui, même les plateformes, je crois que TF1 sur Mercato a été un des diffuseurs les plus encourageants en disant allez-y, effectivement, ce ton, cette vanne, ce casting, tout ça, ils ont dit on y va, on essaye tous ensemble de faire un truc nouveau, et je trouve ça vraiment incroyable de participer à ça.
Il y a beaucoup d'action, donc c'est vrai que ça implique beaucoup de cascades. Est-ce que ça crée des difficultés quand on est réalisateur sur un tournage ?
Toujours. Tout ce qui est technique est compliqué. Les cascades étant, à mon avis, la quintessence du technique. Je travaille, pareil, sans mentir, sinon je ne le dirais pas, avec des acteurs C'est rare de voir des gens aussi pros que ça et aussi volontaires.
Qui sont à l'écoute.
Ouais, et volontaires et physiques. Et en fait... Le technicien qui était en charge de ça était aussi incroyablement motivé et pro. Et c'est vrai que quand nous, sur TF1, on casse une voiture, on n'a pas 40 voitures à casser, on en a une à casser. Donc il faut que ça réussisse, mais ça crée une excitation. En fait, je trouve que il n'y a rien de tel qu'un petit coup de pression quand même, en se disant, voilà, on a une prise pour réussir, on est tous prêts, on est tous chauds, il y a tous ces savoir-faire, ces techniciens, ces acteurs, et tout le monde se met sur la même note, et on avance, et on y va, et quand on réussit, c'est une vraie réussite humaine, plus que technique. L'ambition de Mercato est de sortir des intérieurs de commissariat et d'aller casser des voitures, des motos, faire des poursuites.
La part est belle faite au tout ce qui est tournage extérieur, décor extérieur, ça c'est sûr.
Mais Marseille inspire ça aussi. Quand on est à Marseille, il y a une énergie qui rentre en vous, qui est plus forte que vous, c'est celle de Marseille, et qui est vraiment une entité très forte. Et de filmer ça, de filmer cette ville avec sans le cliché en fait, tout ce qu'est cette ville, parce qu'elle est d'une richesse absolument infinie, extrêmement inspirant.
Simon, les projets pour l'avenir?
Oh là là, alors moi en ce moment je prépare avec attention et énergie et abnégation le tournage d'un gros film d'action pour Amazon, comédie d'action, avec un très très beau casting et quelque chose de très pop, drôle et funky et ambitieux, et c'est comme si je m'étais entraîné sur mes jouets, sur HeroCorp, sur Visitors, après pour Warner et HBO, je me suis entraîné, et là on nous donne un peu les moyens de faire un truc un peu cool, et voilà, j'ai très très hâte de faire ça, c'est le maximum que je peux dire de ça.
C'est prévu pour quand ça, en tournage?
C'est prévu en tournage en courant 24.
Donc ça sortira courant 25.
Exactement, et puis après d'autres projets au cinéma qui se profilent. Dans la continuité de ça, on essaye d'enchaîner les bons projets. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de théâtre tout seul. Là, j'ai adapté un roman de Fab Caro sur scène au discours que j'ai joué beaucoup à Paris, là, qui repart en tournée fin d'année 24 et début 25.
Il était adapté par Laurent Tirard, il me semble, au cinéma avec Benjamin Laverne.
Exactement. Et ben moi, je l'ai fait au théâtre. Et voilà. Et j'essaye aujourd'hui de n'aller que vers des projets dans lesquels je me sens bien.
Que ça soit devant ou derrière la caméra, les deux t'excitent autant?
Oui, moi je prends le jeu comme un plaisir, comme presque un loisir. C'est comme si on m'invitait à un dîner, moi, quand je vais jouer. Je trouve que l'acteur est très courageux parce que l'acteur doit attendre qu'on ait envie de lui. J'avoue que depuis quand même maintenant plus de 10 ans, je crée, j'écris, je réalise et je fabrique. Et j'aime bien la fabrication parce que c'est concret. Voilà, et que ça permet d'avoir la main sur ce qu'on fait aussi, de fabriquer avec plein de gens évidemment, mais ça permet d'avoir la main et je suis très, très admiratif des acteurs qui espèrent qu'on aura envie d'eux et qui espèrent qu'on les verra dans un truc qui les rendra intéressants, drôles, émouvants, inspirants. Cette attente-là pour moi est insupportable. Donc tout ce que je fais maintenant, j'essaie de l'initier ou d'être au moins moteur de ça. Voilà. Et quand on m'invite comme Pierre et Anthony sur Mercato, ouais, c'est ça, c'est une invitation, c'est des belles vacances pour moi, des vacances studieuses, mais des très belles vacances.
Bon, à Marseille. En plus, on va découvrir en tout cas tes épisodes, Simon. Ça sera donc jeudi à 21h10. T'as réalisé les deux que vous verrez jeudi et puis les deux que vous verrez aussi la semaine prochaine. Et puis si vous avez déjà envie de les découvrir, en tout cas, c'est disponible sur la partie premium de TF1+, la plateforme, la nouvelle plateforme de TF1. Merci beaucoup, Simon.
Merci à toi, grand plaisir.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Encore un Parisien qui a pas tenu 2 semaines, comme d'hab.
Promets-moi de faire un effort avec le nouveau.
C'est moi le nouveau chef de groupe. C'est moi qui donne les ordres.
Oh, tranquille, le Parisien.
Je veux juste rentrer chez moi.
Et notre coup de cœur télé pour vendredi est consacré à la série Le Crime lui va si bien qui fait son grand retour, alors qu'on va recevoir en fin d'émission justement notre amie Claudia Tagbo. Elle a laissé sa place en tout cas dans cette série, un petit nouveau qui arrive, et l'IGPN, on va voir que est pas toujours très, pas psychorigide, mais pas toujours très sympathique quand elle arrive en tout cas, mais nous on l'adore parce que le comédien lui est adorable. Mehdi Sadoun est notre invité. Bonjour Mehdi.
Oh, bonjour, comment vas-tu?
Eh ben,
quel joie de t'entendre une nouvelle fois.
La dernière fois qu'on t'a eu, tu étais sur le tournage et quelques mois plus tard, hop, c'est magique, ça y est, ça nous arrive vendredi sur les écrans. Et Le Crime lui va si bien, effectivement, va être centré sur le départ de Claudia Tagbo de la série et la disparition du capitaine Gabi Molina, qui est introuvable. Et donc, tu vas débarquer en tant que Perrac pour essayer d'élucider cette affaire en tant que commandant de l'IGPN. Un rôle où on a vraiment l'impression que tu t'amusais.
Ouais, je me suis vraiment amusé. Hein. Moi, quand je suis arrivé sur cette série, je suis arrivé vraiment la pointe sur les pieds. Hein. La pointe sur les pieds, tu vois, je sais même pas parler tellement que je tremble. J'avais beaucoup de pression parce que je me suis dit que c'est une série qui cartonnait, qui marchait bien. Et puis quand on arrive comme ça dans un duo, c'est pas simple. On se dit, est-ce qu'on va être bien reçu? Est-ce qu'avec moi, ça va marcher? Est-ce que je gêne pas? Voilà, on a un peu cette appréhension, en tout cas, qui est tout à fait naturelle. Mais voilà, quand j'ai lu le scénario, j'avais tout de suite envie d'y aller parce que j'ai lu et j'ai aimé. Et pour moi, un scénario, tu le sais, hein, je l'assimile à un jeu de société. Si j'ai envie d'acheter le jeu, je regarde ce qui compte pour moi, c'est de savoir avec qui je joue. Et ça, c'était la deuxième appréhension. Donc, quand j'ai rencontré les acteurs, Hélène Cesaret, Julien Ratel, Bruno Locher, Laurent Manzoni, j'ai tout de suite été accueilli dans la colonie de vacances. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, avec toute l'appréhension qu'ils ressentaient de moi quand je suis arrivé le premier jour, comme ça. Et puis ils m'ont dit bienvenue, on y va, on est là pour s'amuser. Et c'est tout ce que j'espérais, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un métier d'image, et puis on peut se dire il y a de l'ego à droite, de l'ego à gauche, et en fait, c'était vraiment chaque jour j'avais envie d'y retourner. Voilà, vraiment c'était. Et en plus j'ai rencontré les producteurs, ils m'ont dit bon, qu'est-ce que t'aimes bien faire? Je dis bon, moi j'aime bien chanter. Ah d'accord, ok, bon bah tu vas chanter. Je dis bon, on va y aller mollo quand même, parce que si je vous dis tout ce que j'aime faire, ça va plus être la même histoire. Et puis voilà, donc effectivement c'est un personnage de l'IGPN qui arrive dans un commissariat dysfonctionnel et puis qui doit remettre de l'ordre parce que Gabi Molina a disparu, on l'apprend après. Et puis voilà, donc à l'image d'un commissariat qui se connaît depuis très longtemps, dont les collègues bossent ensemble depuis très longtemps, donc à un moment donné quand on a fait le tour des uns et des autres, bah ça peut devenir le bordel comme on l'aperçoit au début dans le commissariat. Et moi j'ai une intention bien précise, c'est de remettre dans l'ordre dans ce commissariat là. Donc la personne avec laquelle je vais avancer sur ce projet, c'est Hélène Cesaret, donc le personnage qu'elle incarne et qui était collègue avec Gabi. Et qui va la protéger, qui va essayer de la protéger, parce que déjà, je sais pas si, je vais rien dévoiler, mais au départ, tout n'est pas présent pour être très bon copain avec Céline. Donc elle va plutôt se méfier de moi. Et puis après, naturellement, comme le renard et le petit prince, chaque jour on approche la chaise un peu plus près, et puis on tisse des liens. Ces deux personnages commencent à se faire confiance et qui vont après enquêter dans la même direction.
C'est chouette à jouer un rôle un peu froid comme ça au départ et puis qui se réchauffe au fur et à mesure du temps, vu qu'une série comme celle-ci, on le sait très bien, est tournée dans le désordre et tout. Il faut arriver à mettre les bonnes intentions pour l'évolution du personnage, c'est assez compliqué ça.
Ouais, alors c'est surtout ce qui est intéressant quand on est acteur et qu'on tourne un film dans le désordre, c'est-à-dire que la magie se fait quand ils remettent tout dans l'ordre et qu'on se dit tiens, qu'est-ce que ça a donné ? Parce qu'on commence par la fin, on commence par la chanson, on finit par le début... Donc on est un peu perdu, même si on se souvient parfaitement du scénario du début à la fin, on connaît l'histoire parfaitement. Mais notre joie se fait au moment du montage. On se dit alors ah oui, là c'était le premier jour, là c'était le deuxième jour. Enfin on se le dit dans la tête. Mais voilà, c'est vraiment le résultat qui nous fait vibrer. Et vraiment j'ai eu beaucoup de chance parce que effectivement j'ai pu chanter. Et ce qui rend entre guillemets attachant un film, je dis pas que le personnage est attachant, mais d'une manière générale, c'est quand on arrive à voir un petit peu les failles perso du personnage. Ça veut dire qu'on est un mec d'IGPN, je suis pas IGPN du début à la fin. Si on me voyait que dans cette fonction, on se dirait quel con, il est pas humain. Alors quand on le voit seul, il chante devant sa glace, il est comme ci, il est comme ça, ok. Il commence un peu à se détendre. À dévoiler sa sensibilité.
C'est ça.
À se détendre.
C'est un peu ça. Est-ce que toi, en tout cas, t'es partant pour tourner une suite? Est-ce que t'aurais envie de reprendre ce costume pour les prochains épisodes?
Ah ouais, moi je leur ai dit dès le milieu du tournage, je leur ai dit si ça se passe comme ça avec les collègues, j'ai vraiment envie d'y retourner parce que vous êtes vraiment d'une douceur, d'un amour, d'un accompagnement et d'une camaraderie incroyable. Maintenant, ça dépend pas de nous, ça dépend de l'audience uniquement, ça dépend de la chaîne. Alors si on me demande, moi j'en fais 15 hein, derrière. Avec voilà, si et pourtant c'est même pas là je sors d'un tournage, je rentre dans un tournage dans lundi prochain. Si on peut repartir, on repart. Moi, c'est vraiment une collaboration qui m'a plu avec les producteurs, leur ouverture d'esprit, la réalisatrice qui nous fait déployer les ailes plutôt que de nous les fermer, parce que parfois, vous avez des réalisateurs qui vont avoir des demandes bien précises et parfois pas trop justifiées, qui fait qu'à un moment donné, vous perdez en instinct et vous jouez avec votre cerveau et votre réflexion et ça marche plus. Alors que là, la force de la réalisatrice et de la production, c'est de m'avoir fait confiance sur ce qu'il y avait sur la partition que j'ai proposée, et ils m'ont dit on adore, oh j'aime bien quand tu fais ci, oh j'aime bien quand tu fais ça. J'avais l'impression d'avoir de la famille qui me disait vas-y fais le con encore quoi. Et du coup moi quand ça se passe comme ça, c'est de la joie. On peut pas faire semblant de jouer, on peut pas faire semblant d'aimer. Donc quand on fait semblant de jouer à quelque chose qui nous plaît, alors que ça nous plaît pas, bah ça se voit à l'écran et ça se ressent. Vaut mieux aller bosser ailleurs.
Ouais.
Je pense que c'est comme un enfant. Si on lui dit, si vous achetez un jouet qui fait 300 balles et vous lui dites tiens papa il a acheté ça, amuse-toi. Bah non, je préfère jouer avec le bâton. Bah non, regarde papa, regarde toutes les fonctions qu'il y a sur ce jouet. Bah à un moment donné l'enfant va dire tiens pour faire plaisir à papa je vais aller sur le jouet mais on va voir sur sa gueule qu'il s'amuse pas. Bah c'est exactement pareil. Voilà. Donc là, ce jeu-là, cette équipe-là, on avait, c'est vrai, très peu de confort, très peu de temps, parce qu'on tournait 10 minutes par jour, alors qu'au cinéma, c'est 1 minute 30. Hein, donc, on avait une demi-heure pour bouffer, il y avait toujours, parfois, il n'y avait pas des loges, on n'avait pas d'endroit où se poser, s'asseoir parfois. Mais c'est pas grave, on n'y pensait même pas tellement, on était bien ensemble. C'est-à-dire que, entre chaque prise, on avait envie d'être ensemble. Et en plus, Hélène, moi, en plus, moi, j'ai besoin de faire le con entre les prises pour me concentrer. Et Hélène, c'est l'inverse. Elle a besoin du silence, elle a besoin d'être calme. Et elle est très assidue, elle travaille très bien, elle est très professionnelle. Moi, j'ai appris beaucoup d'elle. On apprend des uns et des autres. Elle a été d'une, je lui dis, j'espère que je te dérange pas parce que vous avez quand même votre ADN de fonctionnement, vos ambiances qui étaient déjà en place. Et moi, j'arrive, je vois un peu le bordel. Dites-le moi, n'hésitez pas à me dire si ça vous saoule. Quand je chante, quand je parle, etc. Et elle me dit, non, moi, je suis fan de tes conneries. Par contre, toi, est-ce que ça te dérange pas mon silence? Je fais, non, au contraire. Moi, mes conneries me permettent de me détendre. Et toi, si le silence permet de te concentrer, c'est parfait. L'essentiel, c'est que
chacun
ne dérange pas l'autre. Et elle me dit, non, pas du tout. Je dis, alors, c'est parfait. Donc, finalement, on était complètement antagonistes. Mais finalement, il y avait une véritable fusion et synergie. Et je lui ai dit, t'es pas cancer, toi? Elle fait, si, pourquoi? Je dis, moi aussi, je suis cancer. Je dis, ah, bah, voilà. On s'est compris. On
tout, est
cancer,
tout s'explique.
Eh, voilà, tout s'explique. Sensibilité, famille, amour, et on pense plus à l'autre qu'à soi. Exactement. Un vieux cancer!
Bon, en tout cas, on va retrouver donc Le Crime lui va si bien. C'est un nouveau départ pour la série. Ça sera donc vendredi à 21h10 sur France 2 que vous allez pouvoir découvrir. Merci, Mehdi, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va écouter un petit extrait et puis on te dit à bientôt.
Oh, bah, merci, mon ami. Merci beaucoup. J'espère que ça plaira à tout le monde et en tout cas, c'est fait avec le cœur. Sachez-le.
Mais j'en suis sûr. Allez, à très vite. Merci, Mehdi. Et puis tout de suite, on va écouter un petit extrait. Le Crime lui va si bien vendredi 21h10 sur France 2.
IGPN, commandant Perrec. On est lundi 9 novembre. Il est 9h15. À partir de maintenant, commissaire, vous êtes sous ma responsabilité pour les besoins de mon enquête.
Attendez, il se passe quoi, là?
Emmenez-moi à la salle des scellés. Sortez-moi ces 3 scellés.
Mais pourquoi précisément ceux-là?
Trouvez-les d'abord, je vous expliquerai ensuite.
22-07-23, il n'y a pas. 23-01-22, il n'y a pas non plus. C'est quoi déjà le dernier?
Le 23-11-23. C'est un gant retrouvé après un braquage dans un entrepôt. Saisi et enregistré ici, il y a 3 jours. C'est pas le bon numéro. La plaisanterie a assez duré. Madame la procureure, Perrec, je suis sur place, j'ai vérifié les 3 scellés ont bien disparu. Le stock de manque de luxe, les bijoux et le gant. Carte blanche. Merci.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et faite, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté, je suis née pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté, liberté. Liberté.
connaître.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine, ça sort mercredi dans les salles. Ça va vous mettre une banane pour la semaine, je vous le dis. Et ça fait du bien des films comme ça. Ça s'appelle Karaoké, mercredi, avec le réalisateur qui était avec nous, Stéphane Benlassen. Bonjour Stéphane.
Bonjour, merci de nous recevoir.
C'est avec grand plaisir, une des héroïnes du film avec Michel Larocque, c'est Claudia Tagbo qui est avec nous. Bonjour Claudia.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être là et puis un habitué de l'émission, on est très heureux de te recevoir. David Morac est avec nous, que vous adorez évidemment et que vous regardez tous les soirs, j'en suis sûr, sur M6 dans Scène de Ménage. David Morac est avec nous, bonjour David.
Bonjour.
Merci d'être là tous les trois, c'est ce que je dis, ça met une banane moi quand je l'ai vu. Le film, je me suis dit, mais ça met une pêche, c'est un peu un choc de culture en même temps, entre vraiment... le côté populaire du personnage incarné par Claudia. Et puis le côté un peu, on va dire, déconnecté de la réalité du personnage de Bénédicte incarné par Michel Larocque. Comment est venue l'idée? Parce que le karaoké aujourd'hui, c'est une mode qui a été propulsée par Nagui. Mais on entend parler énormément de karaoké. Ça tombe super bien ce film.
Ouais, alors il n'y avait pas vraiment de calcul sur savoir si on était tendance ou pas. Il y avait l'envie de faire un film de concours avec ce que peut apporter la musique en termes de joie de vivre, etc. Puis de confronter deux personnages très différents, celui joué par Claudia et celui joué par Michel, c'est-à-dire une un peu perchée, un peu hors sol, grâce à tous les honneurs que sa carrière de cantatrice lui a offert, et puis une autre, les pieds dans la terre, dans la réalité, avec sa famille, sa maison, les emprunts, le travail, et qui est celle de Claudia, et de mélanger ces deux univers et de dire, et si une amitié pouvait sortir de tout ça. Voilà, c'était ça l'idée.
Mais en tout cas, c'est une très belle idée, et ce personnage de Fatou, qui est femme de ménage dans un palace qui reçoit les plus grandes stars, dont Bénédicte, qui est une des plus grandes stars cantatrices de l'opéra, et qui va voir sa carrière à suite d'un... On peut appeler ça presque un burn-out, hein, où elle pète littéralement les plombs. Ouais, un burn-alcool. Et donc, elle va trouver en Fatou une sacrée alliée quand même, hein.
Oui, une sacrée alliée, parce que c'était pas prévu comme ça, mais Fatou voit cette femme qui est complètement à la dérive, et elle se dit dans sa générosité, allez, on y va, et, parce qu'on est tous comme ça. C'est une femme qui a peu, mais qui a toujours la main tendue, donc elle s'est dit, allez, je vais l'aider, puis elle est maligne aussi, elle s'est dit, ah, on aime toutes les deux chanter, et puis quand on fait, oh, c'est pareil que chanter, karaoké, allez, viens. Viens, je t'embarque avec moi. Donc oui, c'est une question de sororité entre elles, une générosité, une envie de tendre la main à l'autre, voilà. Et puis dans ce que j'aime bien, c'est le côté elle n'a pas beaucoup et elle s'en fout de ce qu'on peut penser. Elle ouvre sa porte. Je trouve ça, elle est chouette. Ce personnage est vraiment chouette.
C'est les gens les plus généreux, souvent. Et puis Gilou, qui va ouvrir la porte de Fatou, son mari, justement, à Fatou, alors qu'il lui retape la maison au fur et à mesure, hein, comme un peu tous les couples qui investissent sur 25, 30 ans pour acheter leur premier bien, leur première maison, et puis qui vont la retaper petit à petit. On est vraiment dans cette culture populaire-là et dans ce mari que t'incarnes, Gilou, qui est un peu un bricoleur, quoi.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont pas beaucoup de moyens, mais on sent bien que chaque petite centaine d'euros économisés chaque mois servent à finalement faire les travaux dans leur petit pavillon de banlieue. Je pense à un mari aimant et un beau-père aussi qui compose avec les caractères de ces belles filles. Et donc il soutient à fond sa femme dans son envie de ce concours de karaoké, quoi.
Oui, parce qu'il faut dire que Fatou, sa passion numéro un, c'est le karaoké. Et alors, si Claudia Tagbo aux Enfoirés nous a montré une prestation magnifique, avec une magnifique voix, on va dire que Fatou, c'est pas tout de suite ça, quoi.
Mais non, c'est pas ça, mais j'ai envie de dire, elle s'en fout, elle donne. Elle donne, elle chante, elle estime qu'elle chante juste. Peu importe ce que les autres pensent, elle estime qu'elle chante juste et qu'elle mérite d'aller au championnat de France, du monde, de l'univers. Elle est là, c'est une femme pétillante, battante, qui est dans le plus plus. Elle est dans le plus de la générosité. Donc et son mari, elle a trouvé le bon mari. Ce que j'aime dans ces deux personnages, en tout cas, il y a énormément d'amour. Ils sont pas du tout dans le. On pourra avoir de. On travaille tous, on est tous, on va dire, des gens normaux et on a peu de moyens. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a honte de ce qu'on va penser. Non, là, il y a quelqu'un qui débarque chez nous. Mais viens, on mange ça. Mets-toi avec nous à table. Et on s'en fout de ce que l'autre va penser en fait. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux, qu'il soit content d'être avec nous.
Alors évidemment un film qui s'appelle Karaoké, il y a une bande son du tonnerre évidemment. Stéphane, comment on fait pour arriver à obtenir tous ces droits? Parce qu'on peut se dire ça peut des fois poser peut-être un problème de budget parce que ça coûte très très cher d'obtenir les droits musicaux pour ceux qui le savent pas. Et là il y a énormément de musique évidemment Stéphane.
D'abord, en effet, il faut l'accord des ayants droit, donc c'est-à-dire des artistes. Donc, il faut qu'ils aiment certains lisent avec précision le script, d'autres font confiance au projet général en général. Mais voilà, donc en effet, on est un film qui va de Casta Diva, qui est pour le coup libre de droit, jusqu'à Jules et qui embrasse toute 50 ans de musique populaire, plus ou moins populaire d'ailleurs. Voilà, donc on se bat pour avoir les droits et puis pour pouvoir utiliser correctement les morceaux. Donc ouais, c'était une gageure de pouvoir donner au public tous ces morceaux qu'on aime tous, qui sont ceux qu'on utilise en général dans le karaoké.
Et puis le but évidemment de cette amitié qui va se créer entre ces deux personnages, celui de Bénédicte et de Fatou, c'est que ça va les emmener tous les deux, toutes les deux du moins, au grand concours championnat du monde de karaoké au Japon, donc pour corser le tout en plus, avec un tournage au Japon.
Ah ouais, ça faisait partie de l'aventure du film, c'est-à-dire que d'ailleurs Claudia va vous expliquer à tous à quel point elle était tellement contente d'aller au Japon parce que c'est une grande voyageuse. Donc mais oui, c'est un concours qui existe vraiment. Donc on commence sur les championnats régionaux qui existent vraiment, qui sont d'ailleurs en ce moment, qui ensuite vont emmener au championnat de France les gagnants du régional et ensuite emmener le vainqueur du championnat de France jusqu'à Tokyo. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour nos personnages. Mais Claudia expliquera mieux que moi à quel point elle était fan du Japon et de l'avion.
Oui, et le personnage de Fatou, en tout cas, nous a fait beaucoup rire parce que, évidemment, comme tout karaoké, où qu'on peut aller chanter, nous tous dans les karaokés, on se prend pas au sérieux. Et Claudia, pour le coup, on a vraiment l'impression que le personnage de Fatou prend pas forcément tout ça au sérieux jusqu'au moment où il y a cette sélection et elle doit partir au Japon. Et là, elle dit non, mais je monte pas dans un avion, moi.
Bah non, je monte pas dans un avion. Elle a peur dans l'avion. Alors c'est là où Fatou, le personnage, rejoint Claudia Tagbo dans la vie, c'est que l'avion et moi, nous ne sommes pas amis. Donc heureusement, et comme dans le film, il y a Gilou, son mari, qui va avoir une petite astuce pour qu'elle puisse venir. Et puis comme dans la vie, il y a David Morin qui a aidé sa collègue de travail à prendre l'avion. Parce que je pense qu'il n'avait jamais vu une noire grise ou une noire blanche. Parce que j'avais vraiment peur de monter. Mon mari m'a accompagné jusqu'où il pouvait. Et puis David a pris le relais en lui disant, t'inquiète, je m'en occupe. J'avais vraiment pas envie de prendre l'avion. J'ai horreur de ça. Et j'étais persuadée qu'on était au cinéma, quoi, qu'on allait faire tout ça sur fond vert. Mais non, il a fallu qu'on prenne 16 heures d'avion.
Bon, en tout cas, vous allez rire, c'est vraiment une comédie tendre. Comme on les aime, mercredi au cinéma, ça s'appelle Karaoké, on écoute la bande-annonce. Vous allez voir, on va chanter, hein. Vraiment, c'est très très chantant. Et puis surtout, je pense que même après avoir vu le film, vous allez chanter un moment après encore. Mais on écoute la bande-annonce et on revient juste après Claudia Tagbo, David Morin et Stéphane Benlassen sont nos invités aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Le chant, c'est ma passion.
Merci.
Quoi, ça va bien?
Je dirais plutôt que vous avez une voix un peu difficile.
Je ne peux pas associer le nom d'une diva à celui de karaoké. Ça ne marche pas. Tu es mise à pied.
Votre voix, ma présence, on va tout déchirer.
J'ai envie de dire bonjour à n'importe qui.
Vous êtes nuls. Je vous préviens, à partir de maintenant, c'est Nagui. Matin, midi et soir. Et je bloque ses paroles.
Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais c'est pas possible, votre posture. Vous serrez le popo. Et maintenant, vous laissez sortir l'air.
Pardon ?
Fatou.
Allez, de retour pour notre spécial karaoké, mercredi au cinéma. Stéphane Benlassen, David Morin et Claudia Tagbo sont avec nous pour parler de ce très joli film. Parce que je disais, on chante beaucoup, évidemment. Il y a des classiques du karaoké où on ne peut pas passer à côté. Vous y aurez droit, évidemment, dans le film. Stéphane, malgré tout, est-ce que c'était une évidence, Michel et Claudia, pour incarner ce couple à l'écran?
Alors je pourrais mentir, dire que ça a été compliqué, qu'on est passé par 40 réflexions. Non, 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 la vérité c'est que ça a été mon premier choix, et pour l'une et pour l'autre. Michel, on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres films, et dès le traitement, c'est-à-dire l'histoire qui tient en 10 pages, elle avait dit oui. Et on en avait parlé à Claudia avant même que ça soit écrit. Et Claudia, qui avait envie de tourner avec Michel et qui aimait le film, avait envie de rejoindre l'aventure. Non, ça s'est fait franchement très simplement, et c'était un délice pour moi.
Alors Claudia, on a l'impression que cette amitié a perduré parce qu'on vous a trouvé hyper complice sur la scène des Enfoirés qu'on a pu voir le 1er mars dernier. D'ailleurs, on rappelle hein, que le DVD et le CD sont toujours en vente du spectacle 35 ans Enfoirés, et que 17 repas à chaque DVD et CD vendu sont reversés au Resto du Cœur. Donc voilà, on compte sur vous évidemment. Mais en tout cas, on vous a trouvé très complice sur cette scène des Restos du Cœur, toutes les deux encore.
Oui, très complice. Là, pour le coup, on peut pas mentir sur que ça soit dans le film ou dans la vie. La complicité continue et elle était déjà là. À partir du moment où elle m'a abordé il y a maintenant 3-4 ans en arrière pour le film en disant « Écoute, on va tourner dans 1 an et demi. Viens, on fait une photo. Je l'envoie au réalisateur. On va tourner ensemble et tout. » Voilà, elle a tenu parole parce que souvent on dit « Ah, merci beaucoup, madame. Ouais, c'est chouette. » Et ça vient pas. Et là, non, c'est venu, tout est fait, tout, on a tourné et tout. Donc, belle générosité sur la pellicule et puis dans la vie, et elle est entière, Michel, elle est marrante, c'est une grande belle dame et très intelligente humainement, et je suis très heureuse de cette jolie rencontre.
Quelqu'un de fidèle aussi en amitié, hein. Vous remarquerez qu'il y a son comparse d'Alors on danse qui fait une petite apparition d'ailleurs dans le film. Il y a un casting autour de vous, même les enfants hein, du couple, elles sont super franchement les filles.
Ouais, on s'est bien entendu tous ensemble. Et puis même au Japon, il y avait le père de la petite et tout.
Oui.
Et enfin, c'était une belle aventure. On en avait plein les yeux d'ailleurs là-bas.
C'était la première fois que tu tournais au Japon, toi, David?
Ah bah, je pense que tout le monde. C'était la première fois pour nous.
C'était la première fois pour tout le monde.
Et c'est choc des cultures, donc forcément, on en a pris plein les yeux, que ce soit au carrefour de Shibuya, c'est ça? Que culinairement parlant, que enfin voilà,
ah,
tout est.
David, il y va. Ouais, hein. Ouais. Ah ouais,
il ose tout.
Ah ouais, il ose tout. Moi, je te. Ah ouais, non, j'ai dit non, je teste pas, lui goûte, puis il fait. Ouais, c'est bizarre, mais ouais. Voilà.
On verra après, quoi. Moi, je suis assis.
On verra après. Ouais, c'était sa phrase. On verra après, mais là, c'est le moment, ça va.
Moi, c'est vrai que déjà, niveau nourriture, j'aime globalement tout. Bon, là, c'est un petit peu plus pointu, mais quand même, la plupart des choses sont bonnes.
Bon, il y a des beaux souvenirs, j'imagine, pour vous sur ce tournage. Il y a dû y avoir des scènes d'enregistrement, des chansons entre toi et Michel, Claudia, qui ont dû être assez anthologiques. Il y a dû y avoir quelques fous rires quand même de temps en temps, non?
Oui, enfin, il y a des fous rires, mais ce qui est bien, c'est que l'une comme l'autre, on est respectueuse de ceux avec qui on travaille. Donc, les fous rires, c'est bien, mais en même temps, on était toujours très concentrés. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a été coachés par Adeline, la prof de la Starac, et on a eu aussi cette chance de pouvoir enregistrer toutes les chansons avant le début du tournage pour pouvoir faire les playbacks sur nos propres voix. Donc, ça, c'est plutôt un côté un peu agréable, même, j'ai envie de dire, confortable, parce que les scènes, c'est comme un film, on reprend. Et là, d'être aidé par sa propre voix, c'était plutôt agréable. Ouais. Mais c'est vrai qu'en studio, on a beaucoup ri quand elle me disait « Oui, mais allez, serre, allez, on gagne là, allez, on y va, écarte !» Pense comme si tu étais en train de faire, désolé hein, les auditeurs, en train de faire pipi, et tu forces. Vas-y, je fais « Wow !» Non mais c'était assez marrant. En se regardant, on disait « Ah ouais, vraiment ?» Et elle venait comme ça, toucher au niveau des côtes. « Ouvre-la, pousse maman !»« Ah oui, d'accord !» Et c'est vrai que maintenant, je garde ça, et je vais même garder ça au Resto du Cœur, parce que j'ai fini le Resto du Cœur, j'étais pas fatiguée. Parce qu'elle a vraiment donné des petits tips comme ça qui étaient très bien.
Et vous allez voir d'ailleurs, pour les fans de la Starac, que Adeline ne s'est pas arrêtée qu'au coachage de nos deux stars du karaoké, mais fait aussi une petite apparition à vous d'ouvrir l'œil. Vous verrez, vous la reconnaîtrez à sa belle chevelure rousse. Ne pas douter en tout cas. Stéphane, souvenir particulier, une scène particulière qui t'a marqué ou qui restera marquée en tout cas sur ce film, ou qui a été difficile ou qui a tourné un peu en fou rire, qui restera encore un bon souvenir peut-être dans 10 ans?
Bah, il y en a plusieurs. C'est difficile de sélectionner, mais on est toujours content quand on, soit quand on a écrit un truc et qu'on le trouve exactement tel qu'on l'imaginait pendant le tournage, donc ça c'est formidable, ou au contraire, vous n'aviez pas une idée préconçue et les comédiennes font un truc extraordinaire qu'on pouvait même pas imaginer, donc il y a vraiment des choses, et je pense en particulier à la scène des toilettes où Claudia a fait un truc extraordinaire et qui me fait rire, ou Michel qui chante Castadiva, qui chante de l'opéra, enfin il y a quand même plein de choses, ou des scènes de connivence, ouais, c'est plein de petits moments, des choses comme ça qui sont très très fortes.
Et vous verrez la scène des toilettes, hein, pour rien spoiler, c'est au moment où Claudia, enfin le personnage de Fatou, découvre les toilettes japonaises. Et ça va être très très drôle, effectivement, même à regarder nous, on a beaucoup ri. David, souvenir particulier ?
Bah forcément, le Japon, c'est hors norme. Mais même quand on était dans notre petit pavillon de banlieue, c'était déjà un terrain assez intéressant parce que effectivement, ils ont trouvé un décor complètement en travaux, quoi. Donc même si les accessoiristes mettent encore plus de travaux aux travaux, si vous voulez, mais non, c'est
le fourrage des tomates.
La farce des tomates farcies, ouais. Alors il faut savoir qu'aucune tomate a été maltraitée dans ce film, hein, je m'engage à ça. Non, moi c'est vrai que j'ai adoré. Bah, on a déambulé toute une journée dans Tokyo à faire en fait une sorte de moment un peu clippé où on va voilà dans la salle de l'arcade, dans les restaurants pour déguster des choses et puis voilà, on est au contact des gens, donc c'était très agréable. Ouais, c'était un sacré moment ça.
Ah oui, et moi je me rappelle pour toi d'un parce que je me dis waouh, il est trop fort. Il y avait des moments, des scènes clippées où il devait changer de vêtements, enfin il essayait des costumes et il faisait ça dans la rue. Et à un moment donné, il se met par terre, il faisait avec des Japonais autour, quoi. Et j'ai dit waouh, le gars il est costaud, et les Japonais très sympas qui le regardaient. Mais j'ai dit waouh, chaud. Est-ce qu'il y a un Japonais qui va se pointer devant nous, arrêtez de vous moquer ou quoi? Mais il faisait tellement de cœur que limite les Japonais le regardaient et rigolaient.
Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que j'étais ridicule.
Bon, vous verrez le film. En tout cas, on va rien spoiler. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai été surpris par la fin. Parce qu'on aurait pu voir une fin attendue. Et en fait, la fin est assez inattendue. Et surtout, très poétique. On n'en dira pas plus. Mais j'ai trouvé, en tout cas, cette fin très poétique, Stéphane.
Bah, on essaye de faire une comédie qui soit une comédie du réel avec un peu de sens et un peu de d'âme. Et donc, voilà. C'est des personnages qu'on devine normal et qui vont à un moment donné vivre quelque chose d'un peu plus que le normal, mais qui restent dans leur réalité. Donc, on jongle entre plusieurs énergies, entre l'émotion, le rire et en effet une petite sorte de poésie, quoi.
Mercredi, ça sort au cinéma, ça s'appelle Karaoké. On va se quitter avec l'âme du film, Juliette Armanet, Le dernier jour du disco. On va s'en écouter un petit extrait parce que je peux vous dire qu'après une heure et demie, après avoir vu le film, elle va vous rester un petit peu en tête. Alors on va commencer dès maintenant pour vous préparer tout doucement. Mercredi, Karaoké au cinéma. Merci Claudia, merci David, qu'on retrouve ce soir à 20h30 dans Scène de ménage sur M6 évidemment aussi. Et puis merci Stéphane d'avoir été avec nous tous les trois.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous aurons une spéciale La Promesse Verte avec Édouard Bergeon, le réalisateur, qui sera accompagné de Alexandre Alamy et de Christophe Rossignon, le producteur du film. Richard Orlinski également sera notre invité exceptionnel à l'occasion de la nouvelle émission sur TV5 Monde intitulée Première fois au musée. Et puis on parlera également de Brigade Anonyme, la nouvelle série d'M6, avec Julien Seri, le réalisateur, Victoire Daboville, la productrice, et Marilyn Lima. Et puis sans compter également une page spéciale Série Mania, où nous serons tout au long de la semaine pour vous.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé, et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chut, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.